On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Bonjour, on va déguster Plonge dans l'univers passionnant et désaltérant des cocktails à travers une émission que nous avions enregistrée l'été 2016 avec deux bartenders de renom. Bon appétit et large soif.
On y va pour les deux plats du jour.
Mmh. J'aime bien les cocktails, j'aime bien la présentation d'un cocktail. Et puis le goût aussi, c'est le goût des cocktails, c'est sympa. Parce que c'est vrai qu'il y a tout un geste qui est très sympa à faire. Et puis une fois que la préparation est finie, t'as toute une décoration avec des fruits, avec des décos que t'as à mettre dans les verres, c'est ça de la gueule, c'est sympa. Et avant tout, c'est de faire quelque chose de bon, de subtil, que tu ne t'aperçois pas du tout ce qu'il y a dedans, c'est bien.
Souriez, c'est l'été sur le plateau dont on va déguster. Bonjour à toutes et tous, c'est parti. On the rock, sortez vos tumblers et vos shakers. À nouveau, les long drinks, les highballs, les coolers, les shooters. Vous nous pardonnerez, chers auditeurs, d'avance cette émission truffée d'anglicisme, car aujourd'hui, on plonge dans l'univers des cocktails. Pour transformer notre studio en terrasse au bord de la piscine, va quand même falloir un tout petit peu d'imagination. Deux invités, deux têtes pensantes de la mixologie, deux secoués du shaker qui participent activement à la French Touch du cocktail et qui vont, oui oui, c'est le défi qu'on leur lance aujourd'hui, réaliser en direct sur notre plateau quelques prouesses liquides. Il y a d'abord Eric Fossard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la tête avec votre associé Thierry Daniel de Liquide Liquide. C'est l'agence avec laquelle vous avez notamment fondé Cocktail Spirit, hein, c'est le premier salon français professionnel des cocktails.
Exactement.
C'était en 2007. Vous êtes également à l'origine de la Paris Cocktail Week et de la Summer Cocktail Week, dont la première édition s'est déroulée en juin dernier. Vous avez également ouvert le bar Le Coq à Paris. À vos côtés, quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Marc Bonneton. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous nous venez de Lyon, une ville qui bouge, paraît-il, en matière de cocktails. Vous êtes bartender, barman, on va essayer de s'entendre tout à l'heure sur les définitions, peut-être aussi bien manager. En tout cas, vous vous êtes taillé une sacrée réputation sur la scène internationale des cocktails. Vous êtes à la tête de deux établissements à Lyon, c'est bien ça, qui font des cocktails?
C'est ça.
Comment s'appellent-ils?
L'Antiquaire et le Redwood.
L'Antiquaire et le Redwood. Et ça se passe à Lyon. Mes chroniqueurs, qui sont surtout venus pour siffler des cocktails d'été, hein, faut bien l'avouer.
C'est pas faux.
Elvira Masson, Dominique Hutin, bonjour à tous les deux.
Bonjour à tous.
Elvira Masson, alors vous, oui. C'est pas compliqué, vous avez pris la presse internationale, vous l'avez secoué bien fort, oui. Et il en ressort un cocktail d'info qui a quel goût?
Pas très alcoolisé, je le crains.
Ah!
Non, vous m'en voulez pas? Il a plutôt un goût de vinaigre, d'épices, de sirop.
C'est parfait, comme il faut boire l'alcool avec modération, tout le monde le sait, n'est-ce pas, Dominique? Vous êtes tout à fait dans le ton, Elvira Masson. Dominique Hutin, vous nous invitez à un voyage entre la France et l'Écosse.
Entre la France et l'Écosse. Un voyage aux accents aussi scottish que titi parisien, finalement, mais surtout un voyage qui est synonyme de transport enfiévré pour l'alcool du moment qui est le gin.
Ah, très bien, le gin. Vous n'avez pas oublié votre gin. Parfait. L'émission du jour est dosée, mixée, servie par Michel Billou avec Fabrice Desmaz, Nadia Chougui pour la préparation, Djoubaka pour une belle programmation musicale tropicale. Juste avant les cocktails de nos invités, on commence par notre petit cocktail à nous des infos de l'été, c'est la tournée des popotes.
On va déguster les saveurs de l'été.
Une tournée des popotes qui fait le tour de France. On commence avec Elvira Masson qui nous emmène où?
À Tichy.
Où ça? Alors c'est sexy.
Bon, c'est à côté de Compiègne.
Ah, pas mal.
Donc dans l'Oise.
Dans l'Oise. Très bien.
Voilà, exactement.
À Tichy.
Je vous emmène précisément dans une biscuiterie.
Oui, bah je vois qu'il y a un
à l'orée de
petit
la...
paquet voilà. Qui circule sur le plateau. Nos invités se sont déjà servis d'ailleurs.
Exactement, à l'orée de la forêt de Compiègne, la biscuiterie s'appelle La Pierre qui tourne.
Oui.
Elle a été créée par un jeune couple, Benoît et Isabelle Amiel.
D'accord.
Qui ont investi une vieille bâtisse de la commune, qui travaille avec des producteurs locaux, qui défendent des circuits courts d'approvisionnement. Oui. Chaque jour, ils produisent, qui est à mon sens, des petites merveilles, des sablés, des biscuits, des croquants. En n'utilisant vraiment que le meilleur, des huiles essentielles, du sésame toasté, du cacao amer, des œufs entiers, du bon beurre, tout ça.
Je les ai pas goûté, rien qu'à la vue, ils sont formidables. Qu'est-ce que vous en pensez, nos invités, Eric et Marc?
Confirmé, très bon.
Très bon, très bon.
Vous goûtez quoi? Sablé, gingembre?
Le deuxième.
Et ouais. le spéculoos,
ginger,
quelqu'un l'a goûté.
Paillettes insensibles.
Ils sont étonnants, ces spéculoos.
Très puissants.
Je suis tombée dans le sachet de spéculoos. Sachet, joli sachet d'ailleurs en craft.
J'ai constaté ça ce matin dans le bureau dont on va déguster, ouais.
Ah non, mais ils sont épatants. Ils n'ont pas ce côté parfois écœurant des spéculoos avec cette cannelle de pas très très bonne qualité qui est un peu comme ça écœurante, un peu grasse, qui a un goût un peu de bonbon. Là, c'est quoi? C'est de la farine de blé demi-complète, du sucre de canne, du sucre rapadura, du beurre, un savant équilibre de cannelle, anis, gingembre, coriandre, cardamome, girofle, de la poudre à lever sans phosphate, du sel. Et c'est un modèle d'équilibre et de caractère.
Enfin, des spéculoos de compétition,
ah ouais,
artisanaux.
Ils sont pas belges, hein, ils viennent donc de l'Oise, mais ils sont épatants. La pierre qui tourne, on peut acheter les biscuits en ligne sur lapierrequitourne.com. Et je trouve que c'est un bel exemple de petite entreprise artisanale, jeune, qui travaille en circuit court, bien, bio. Bravo.
Bon et bio, ouais. Merci beaucoup. La pierre qui tourne, bah ça, ils vont tourner, ces biscuits, pendant l'été, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Elvira, pour ce joli conseil sucré. Dominique Hutin, où est-ce qu'on part avec vous?
Nous, on fait escale dans les Ardennes avec un produit de saison.
C'est sympa.
Ce produit de saison, il est tout à fait à point, c'est le festival de musique. On sait en général que l'été voit traditionnellement poindre les scènes musicales, où d'ordinaire, quand même, c'est cool, des flots de bière industrielle. Ce temps est peut-être révolu, ce temps des grands raouts qui sont arrosés à la bibine industrielle. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, le mois dernier, le festival de métal Download, vous connaissez Elvira, hein?
Bien sûr.
120 000 festivaliers ont été séduits par du cidre de qualité. Assez rare pour être souligné. Les 135 000 spectateurs de Main Square, cette fois c'est à Arras, ils se sont vus proposer, eux, attention, sandwich carbonade, salade sauvage des Flandres, fraises marinées à la menthe poivrée, tout agencé par une dizaine de chefs dont vous le connaissez, Florent Ladenne.
Ah, bah le fameux, il a un super restaurant à Lille, Blompot.
Exactement.
Florent Ladenne.
Et ce qui se profile dans les tuyaux, c'est le 25 au 28 août prochain, le festival Cabaret Vert. Cette fois on est dans les Ardennes, donc à Charleville-Mézières. 86 000 festivaliers qui vont se voir offrir des spécialités ardennaises sur le site du festival. Pâté en croûte, salade au lard,
jambon,
boudin brioché, jambon certainement, tarte au maroilles, etc., etc. Et même, fameuse, cacasse à cul nu. Un ragoût à base de pommes de terre, évidemment, une foultitude de bières locales et artisanales. Et donc cette tendance-là, elle semble d'autant plus pérenne que la guerre fait rage entre les propositions, les programmations estivales et cette approche vertueuse, finalement, c'est un moyen pour les gros festivals de se démarquer les uns les autres. Voilà, festival Cabaret Vert, Charleville-Mézières, dans les Ardennes.
Bonne nouvelle, la gastronomie des festivals progresse. Et c'est d'ailleurs Didier Varol qui nous le disait. Il constatait effectivement que de plus en plus, il y avait des propositions intéressantes à base de produits locaux. Il manque plus que les cocktails. Ouais, bah voilà, on va demander à nos amis de leur rendre service. Des Ardennes, nous descendons sous le soleil de la Côte d'Azur à Nice, dans l'une de mes 3-4 meilleures adresses, mes adresses préférées en France. Ça se situe aux 4 rues Raoul Bozio, juste à côté du cours Saléa. Mais où est-on?
Ici, c'est la Merenda à Nice.
20 ans cette année?
20 ans cette année, 50 ans qu'elle existe.
Qu'est-ce que ça fait?
Toujours beaucoup de plaisir, toujours beaucoup de bonheur à venir tous les matins, démarrer le fourneau, aller au marché, cuisiner. J'y pensais dernièrement encore, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi tu aimes encore autant ça? Parce qu'avant, j'ai quand même changé, au bout de 8 ans au Negresco, j'en ai eu marre. Avant, je changeais tous les ans dans les 3 étoiles. Et ici, en fait, je me suis rendu compte que c'est la cuisine que j'ai toujours aimée, la cuisine de ma grand-mère, la cuisine de femme. Et c'est une cuisine de femme, et j'adore cette cuisine, donc j'adore la faire. Alors la merenda, c'est les pâtes au pistou, en été la ratatouille, les beignets de fleurs de courgettes. En plat, incontournable, c'est celui qu'on mange le plus, c'est la daube. Moi j'adore les tripes de veau, les saucisses lentilles, voilà, la queue de bœuf avec la polenta aussi. Et puis en dessert, quand c'est la saison, la tarte citron, le clafoutis, la tour de blette j'adore vraiment. C'est un dessert typiquement niçois qu'on trouve qu'à Nice et je l'adore.
La merenda, eh bien, ça veut dire casse-croûte en patois niçois. Et la merenda, c'est aussi une auberge qui est donc à côté du cours Saléa de 28 mètres carrés, cuisine et toilettes comprises, avec des tables serrées comme des sardines et des tabourets pas très confortables. Mais alors, ce qu'il y a dans l'assiette? Et puis celui qui fête ses 20 ans au fourneau, c'est Dominique Lestanck. Vous pouvez pas le louper, il est dans sa kitchenette tous les jours, le chef au catogan et au tablier bleu. Une cuisine de bonne femme, avec des tripes, de la daube, du stock-à-fiche. Et effectivement, une spécialité qui me rend totalement accro, les pâtes au pistou. C'est l'un des plats qui me rend certainement le plus accro en France. Et on n'est pas dans le pesto genovese, hein. On n'est pas dans le pesto version
pas de fromage.
Ligure. Il y a du fromage, mais il n'y a pas de pignon par contre. Et en revanche, il y a plus d'ail. C'est-à-dire qu'on est sur du basilic, de l'huile d'olive, du fromage râpé. et beaucoup d'ail, beaucoup plus que du côté de Gênes. Mais par contre, il n'y a pas de pignon. La texture, le goût, enfin voilà, tout ça fait que cette recette est absolument magnifique.
Eh bien, écoute, je ne sais pas comment ça s'explique, parce que tu n'es pas le seul. Il y a énormément de clients qui viennent et il y en a qui prennent pâte au pistou en entrée, pâte au pistou ensuite.
Les pâtes au pistou à déguster donc à la merenda. Attention, pas de téléphone. Et oui, c'est pas très pratique. Il faut passer directement pour réserver ou pour trouver un couvert ou se pointer à l'improviste. Mais il y a quand même pas mal de monde. Et pas de carte bleue non plus. Il faut donc payer en liquide. Il faut compter entre 20 et 30 euros par personne, tout compris, même avec le vin. Ça se passe à la merenda. C'est l'auberge niçoise de Dominique Le Stanc, 4 rue Raoul Bozio à Nice à la Bella.
Well, the girls in town feeling bad. And all my Yankees in Trinidad. They're going to close down the base for good. Them girls have to make out how they could. Now you see them dance up in town. Dance for a penny, not for a pound. Yes, it's competition for soul. Trouble in the town when the price drop. For bouncing up with Jean and Dinah, Rosita and Clementina. Round the dance floor posing. Bet your life that something is cooking. And if you catch them broken, you could jump with them for nothing. Domino round, Yankees gone, the West Indians take over now. When the Yankees was in full swing, just imagine how I was suffering. Dinah tells me straight to me face, how she find I too fast and out of place. No, 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 they would start to fret. Money or not, West Indians can't get. Cause with the Yankees they have it cool. Calypsonians too hard to fool. Jumping up with Jean and Dinah, Rosita and Clementina. Round the dance floor posing. Bet your life that something is cooking. And if you catch them broken, you could jump with them for nothing. Don't make no round. Yankees gone, the West Indians take over now. It's the glamour boys again. We're going to rule in Port of Spain. No more Yankees to spoil the fed. Dorothy have to take what she get. All of them who used to make style, making a dollar or so for a smile. No more dollar, West Indians have said, by the sweat of thy brow, thou shalt eat bread. Bouncing up with Jean and Dinah, Rosita and Clementina. Round the dance floor posing. Bet your life that something is cooking. And if you catch them broken, you could jump with them for nothing. Don't make no row. Yankees gone, the West Indians take over. Yankees gone, the West Indians take over. Yankees gone, the West Indians take over now.
Non mais montez sur la table pendant que vous y êtes à bien. Jean and Dinah. Est-ce que vous avez reconnu la voix,
Marc
le chanteur?
Oui, Robert Mitchum.
Ouais, pas mal. Et pourtant, on voulait vous piéger. C'était une petite pépite déterrée par un amateur de cocktails devant l'éternel. C'est notre programmateur musical, Djoubaka. Vous avez reconnu un peu cette ambiance musicale qui correspond assez bien à l'univers des cocktails?
Oui, bien sûr. Chemise hawaïenne, calypso, culture tropicale, tiki, Hawaï.
C'est
cet univers-là.
Et Eric Fossard, les cocktails, les grands noms, les cocktails mythiques qui vont justement de pair avec cette atmosphère tiki.
Alors il y en a plusieurs, mais le Mai Tai, le Scorpion, il y en a plein.
Le zombie. Suffering Bastard.
Marc Bonneton, vous êtes bartender, définition du Mai Tai?
Définition du Mai Tai, c'est un mélange secret de rhum âgé avec un sirop d'orgeat, ou même certains barman y vont faire leur propre lait d'amande, du citron vert, du dry orange.
Bon d'accord, on n'est pas prêt de les coller aujourd'hui. Vous allez voir qu'on va essayer de vous piéger à travers un quiz cocktail, on verra si ça marche tout à l'heure. En tout cas, je constate, Eric Fossard et Marc Bonneton, que vous êtes dans les starting blocks, que vous êtes en possession de vos moyens, c'est bien, il n'y a pas de souci.
On est venu équipé.
Vous n'avez pas de foulure au poignet?
Ça va.
Non, tout va bien.
C'est plutôt l'épaule, généralement.
Ah, c'est plutôt l'épaule, là, d'accord. Pour réveiller cette émission d'entrée de jeu, je vous lance un petit défi. Alors là, on va quitter l'ambiance tropicale. On va plutôt au sud de la France, on quitte les cocotiers, on va à l'ombre des platanes. On entend kss. Et évidemment, on va essayer, c'est le défi que je vous ai lancé, d'utiliser le premier apéritif bu en France, Dominique, 130 millions de litres par an.
Premier apéritif
bu en France.
Contrairement non, ça n'est pas le cidre, Dominique.
Non, je vois le piège arriver. Non, c'est le whisky. Devant le pastis.
Non, c'est le pastis. Non, je parlais d'apéritif. Peut-être que le whisky, on le boit aussi en digestif alors.
Exactement.
Bon, on s'entendra sur les mots. Mais là, en tout cas, on parle de pastis. Et On a demandé à Eric Fossard de retravailler le pastis. Alors si on veut se servir un pastis sans jouer avec, sans entrer dans des mélanges, mais uniquement pur, se servir un Ricard, avec modération évidemment, Dominique Hutin, toujours, à l'apéro, toujours. Est-ce qu'il y a un ordre? Comment on s'y prend? Parce que souvent je crois qu'il y a une erreur qui est faite.
Alors oui, en fait il y a un ordre qui est très souvent oublié, ce qui est embêtant parce qu'au final ça n'a pas le même goût. Mm-hmm. C'est bizarre, mais mm-hmm. C'est comme ça. Il faut toujours mettre le pastis en premier.
Oui.
Et normalement, c'est toujours un volume de pastis pour 5 volumes d'eau.
D'accord.
Il faut mettre ces 5 volumes d'eau et juste ensuite mettre les glaçons.
Souvent, on a tendance à commencer par mettre les glaçons dans le verre et verser ensuite le pastis.
Exactement.
Et pourquoi ça n'a pas de sens de faire ça?
Et en fait, le pastis, c'est principalement de l'anis. Et l'anis, on l'obtient par une distillation de l'anis étoilé.
D'accord.
Et on obtient de l'anéthol. Et l'anéthol réagit très mal avec le froid.
D'accord.
Elle va cristalliser et normalement elle va tomber au fond du verre. C'est d'ailleurs pour ça que si vous mettez une bouteille de pastis au frigo, elle va se retrouver avec plein de cristaux.
D'accord, donc on se trompe pas.
Ça va changer son goût.
Une dose de pastis, 5 volumes d'eau et les glaçons à la fin.
Exactement.
Bon, on a bien retenu la leçon. Petit test d'évaluation, on monte un peu dans les complications. Il y a des mélanges classiques avec le pastis qu'on connaît bien sur les tables des apéros en France. Qu'est-ce qu'une tomate?
Alors, tomate, grenadine, pastis, eau et glaçons.
Qu'est-ce qu'un perroquet?
La même chose, sauf que vous prenez du sirop de menthe et vous avez un perroquet.
Qu'est-ce qu'une mauresque?
Eh bien, encore la même chose, sauf que vous prenez de l'orgeat et vous avez une mauresque.
Attention, qu'est-ce qu'un mazout? Ou goudron?
Alors ça, c'est plus compliqué parce que c'est pas vraiment consommé en France. Ouais. Quand même. Mais oui, il y a des fois, il y a des Espagnols qui le mélangent avec du Coca-Cola.
Avec un fameux soda marron. Voilà, oui, pastis oui. Plus soda marron, ça donne un mazout. Ça porte bien son nom d'ailleurs.
Oui, alors dans le sud de la France, ils le consomment pas du tout comme
d'accord,
ça.
D'accord, on oublie. Et vous, qu'est-ce que vous nous avez concocté comme cocktail à base d'anisette?
Alors oui, moi je vous ai apporté une recette qui est un peu un twist d'un cocktail anisé. Mm-hmm. Au final, comme on le disait tout à l'heure, la plupart des cocktails, il n'y a pas vraiment de cocktail avec le pastis. C'est plutôt une consommation de comptoir et on va pas faire des boissons élaborées. On les avait plutôt généralement avec de l'absinthe, parce mm-hmm. que c'était l'époque où nous, on élaborait déjà...
Absinthe, ancêtre du pastis d'ailleurs.
Tout à fait, oui, c'est dans la veine de l'anisé. Donc on a fait une variante il y a quelque temps sur une suissesse qui est en fait avec du blanc d'œuf, du jus de citron et du sucre. Là, on l'a faite avec, pareil, du jus de citron, on met de l'orgeat, donc on se rapproche de la mauresque.
Alors vous y mettez?
Je m'y mets. Donc dans mon shaker, j'ai mis 15 ml de pastis.
D'accord.
J'ai mis 15 ml de jus de citron jaune, fraîchement pressé. D'accord. 15 ml de sirop d'orgeat et 15 ml de jus de pomme. En fait, c'est à part égale à chaque fois, donc c'est très simple.
C'est très simple.
Et pour les millilitres, on n'est pas obligé de les avoir non plus. Il suffit juste de trouver un contenant qui ne soit pas très grand et on l'utilise comme mesure à chaque fois et ça suffira.
Par exemple, ça peut être un cocktail ou...
Un cocktail, ce sera beaucoup plus que 15 millilitres.
D'accord.
Donc,
une cuillère à soupe. De rire, on sait pas pourquoi. Grosse cuillère à soupe. Je sais que vous êtes bien équipé à la maison pour les cocktails, mais moi, j'essaie de trouver des substituts pour les contenants.
Et une grosse cuillère à soupe, par exemple, ça devrait faire à peu près 15 millilitres.
Parfait.
Pour une boisson. Et ce que je vais faire, ça va pas faire de bruit là, parce que je vais shaker en fait sans glaçon.
D'accord.
Je vais juste essayer de faire monter un peu en neige le blanc d'œuf que j'ai mis à l'intérieur. Très en bien. Fait, ce que je vais lui donner, c'est plus de consistance en bouche. Ça va avoir un petit peu plus de matière.
C'est à ça que sert le blanc d'œuf dans les cocktails?
Tout à fait. Ça sert de liant. Ça va lier tous les ingrédients. On considère que ça fait un peu une sorte d'exhausteur de goût, au final. Mais ça change aussi la consistance en bouche, la texture.
Allons-y.
Donc, ce que je fais, c'est que je fais juste ce qu'on appelle un dry shake. C'est-à-dire que
sans glaçon.
Je ne mets pas de glaçon.
Vous secouez
juste,
sans glaçon.
Je vais faire monter le blanc d'œuf.
Et là, effectivement, on voit Eric Fossard en train de secouer.
Et là, voilà. Je l'ouvre. Et maintenant, je mets de la glace. Alors là, par contre, ça va faire beaucoup plus de bruit. Je referme et je shake. Et après, je verse en filtrant sur un long verre.
Oh là là, c'est tout mousseux.
Alors ça, c'est le blanc d'œuf sur lequel je vais juste l'allonger avec un tout petit peu d'eau gazeuse.
On dirait un peu du lait de coco bien mousseux, alors qu'il n'y en a pas du tout, hein, soyons clairs. Et là, vous allongez un peu le cocktail avec de l'eau gazeuse.
En fait, le blanc d'œuf, lorsqu'on va le shaker, on va créer plein de petites bulles d'air. Mm-hmm. Et ces bulles d'air, elles vont rester parce qu'il y a le blanc d'œuf.
Alors, vous nous rappelez juste une dose de pastis, une dose de jus de citron jaune fraîchement pressé.
Tout à fait.
Une dose de jus de pomme.
Une dose d'orgeat.
Une dose d'orgeat et un blanc d'œuf.
Alors, normalement, c'est à part égale également avec le blanc d'œuf.
D'accord.
Donc, un blanc d'œuf, ça fait plus que 15 minutes.
D'accord, donc on met un petit peu de blanc d'œuf.
On va dire on met un demi-blanc d'œuf.
On mélange ça à sec.
On remet les glaçons, on shake et on va le servir sur glace avec juste allongé avec de l'eau gazeuse.
C'est très surprenant, hein. Vous avez une moustache de mousse.
Oui, oui. Ah, c'est génial.
Magnifique à la radio.
La fraîcheur.
Quelle texture caressante sur les papilles. On a juste la petite note anisée et en même temps, on va vers l'amande avec l'orgeat.
La fraîcheur.
Il y a l'acidité du citron, la fraîcheur, c'est fabuleux.
Alors, c'est le problème avec les pastis, c'est qu'étant donné que normalement ils sont toujours dilués, c'est ultra puissant en arôme, donc il faut toujours les utiliser avec parcimonie.
On va le faire goûter à Marc Bonneton, bartender à Lyon. Qu'est-ce que vous en pensez?
Très frais, très anisé, parfait pour les fortes chaleurs.
Est-ce que vous travaillez dans vos bars lyonnais?
Bien sûr.
Le pastis?
Ah, le pastis, non, les anisés, on travaille l'absinthe, qui a plus, un petit peu plus sa place dans les bars à cocktails, on va dire.
Très bien. Est-ce que vous êtes prêt, Marc, pour un petit test d'évaluation de vos classiques? Attention.
Allez, c'est parti.
C'est le moment où vous allez être à l'honneur ou tout à fait humilié. Si vous avez des lacunes, on va vérifier ça immédiatement. Qu'est-ce qu'une pina colada?
C'est un cocktail de Porto Rico, donc à base de rhum, et très très populaire et plébiscité à travers le monde entier. Donc avec du Gianna et de l'eau de coco et du rhum.
On peut rien vous cacher. Une caipirinha?
Caipirinha, donc c'est le cocktail emblématique du Brésil, avec de la cachaça, donc le rhum brésilien, des citrons verts écrasés et du sucre.
C'est ça. Daiquiri?
Un grand classique cubain, créé par Jennings Cox, donc c'est des histoires de minier, et donc c'est du rhum avec du citron vert et du sucre shaké, servi dans un verre martini.
C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu la version cubaine de la caipirinha? Dans la mesure où il y a en commun le sucre et le citron vert.
Il y a les mêmes ingrédients, mais c'est un rhum qui est plutôt, donc la cachaça plus de type, on va dire, grosso modo agricole, tandis que les rhums cubains sont des rhums plutôt de type industriel, et puis en plus, donc c'est des rhums qui ont des profils complètement différents.
D'accord.
Le citron vert dans le daiquiri, il est squeezé, donc avec un presse-agrumes, tandis que dans la caipirinha, il est écrasé, ce qui a un goût totalement différent.
Absolument, ça.
Il y a bien l'interro écrit après.
Non, mais parfois, les ingrédients peuvent être les mêmes. Le simple geste ou la façon de faire, la méthode, le processus d'élaboration change le goût.
Le citron vert contre les parois du verre, il va libérer beaucoup plus d'amertume, parce que vous écrasez la membrane en plus dedans, donc ça n'a pas du tout le même profil.
Parce que je me disais qu'on n'était pas très loin non plus d'un autre alcool des Antilles françaises cette fois-ci, d'un cocktail mythique, c'est le Tiponche. Mm-hmm. C'est quoi exactement?
Eh ben, c'est servi en glace cette fois-ci, et donc du coup c'est avec un autre type de rhum, donc les rhums agricoles avec la petite cuillère.
Mais il est aussi question de sucre et de citron vert.
Et de citron vert, sauf que souvent les alcools sont plus à 55 degrés, et c'est beaucoup plus difficile à boire.
Si on veut faire à la maison un cosmopolitan, il nous faut quoi?
Il nous faut de la vodka, du jus de citron vert, du jus de cranberry et du Cointreau ou un triple sec. Merlet, Grand Marnier, pour les États-Unis par exemple.
J'aurais vraiment dû hausser un peu le niveau de ce quiz, parce que là j'ai vraiment l'impression qu'il est en touriste.
J'ai une colle qui va le sécher. Le Kir.
Un grand classique de Dijon, grâce à Monsieur Kir, qui a fait sa crème de cassis.
Après tout, c'est un cocktail, et on intègre aussi parfois des vins dans les cocktails un petit peu plus élaborés qu'on va trouver dans des établissements.
Le Kir, c'est le premier cocktail consommé en France.
Voilà.
On continue. Un Bloody Mary.
Ouais, célèbre cocktail adoré par Hemingway et consorts. Donc vodka, jus de tomate, épices, tabasco, jus de citron jaune. Voilà, deux bars parisiens se battent la paternité entre le Ritz et le bar Hemingway.
C'est vrai.
Remède anti-gueule de bois, le Bloody Mary.
Oui, aussi.
C'est le Harris et le bar Hemingway. Il y a une guéguerre, effectivement, à celui qui aura inventé le premier. On peut considérer que c'est à peu près un cocktail fameux d'invention française.
On peut dire ça. Surtout que le Harris en vend énormément, énormément.
Attention, prochain cocktail avec un petit indice sonore.
One medium dry vodka martini, mixed like you said, sir, and not stirred.
Thank you.
Anything else, sir?
No, that's all.
Dry martini, lemon peel, shaken, not stirred.
Vodka?
Of course.
Can I do something for you, Mr. Bond?
Just a drink. A martini, shaken, not stirred.
For the gentleman, vodka martini, shaken, not stirred.
Vodka martini? Shaken, not stirred.
Shaken, not stirred. On parle du carburant de 007. De quoi il s'agit?
Il s'agit du Dry Martini, donc le cocktail emblématique du cinéma et pour les gens, l'imaginaire populaire, le cocktail, le verre martini, l'olive. Bon, ou un zeste de citron à la vodka ou au gin.
C'est ça.
Et plutôt à la cuillère que shaker, mais après, si vous avez des bons glaçons...
Effectivement, la fameuse expression qui est une réplique mythique du cinéma américain, c'est shaken, not stirred, ce qui signifie en fait...
Frapper et pas remuer à la cuillère dans un verre à mélange.
D'accord, donc il s'agit donc d'un cocktail au shaker, mm-hmm. et non pas remué dans le verre. Et vous nous redonnez effectivement la composition. Il y a donc un alcool qui peut être du gin ou de la vodka.
Ou de la vodka, et puis après, différentes mesures de... Nolipra ou un dry en fonction de votre goût, si vous le voulez plutôt sec ou moins sec ou carrément mouillé, ce qu'on peut dire wet. Et voilà, et après vous pouvez composer selon vos envies avec un zeste de citron jaune, des olives, même du pamplemousse ou ce qui vous inspire.
Vous avez quelques minutes pour vous préparer, Marc Bonneton, car moi aussi je vous ai lancé un défi qui serait celui de travailler un fameux cocktail qui a littéralement inondé le monde entier. Et le travailler en version un peu française, du Total Made in France, pour un cocktail nommé Spritz, à boire sur la plage, en compagnie de Vanessa Paradis.
Thank you.
on va déguster se met à l'heure d'été.
Les cocktails avec nos deux invités. Eric Fossard, vous êtes une figure marquante du cocktail Made in France, puisque vous êtes à l'initiative de nombreux événements qui font avancer le cocktail en France et qui font du cocktail une véritable gastronomie liquide. Désormais, le dernier événement en date, c'était la Summer Cocktail Week.
Ça vient juste de finir.
Et c'était Paris, Lyon, c'était Marseille.
Paris, Lyon et Marseille.
Quel bilan vous tirez de cet événement?
Alors on est très contents, c'est la première fois où on fait un événement qui est plus d'envergure, pas vraiment nationale, mais en tout cas qui sort le cocktail de Paris, et on trouve que il y a plein de choses qui se passent en province, et de plus en plus maintenant, les participants souhaitent et sont en demande d'apprendre à faire des cocktails chez eux.
Et il y avait du travail en France, hein, qui est quand même un peu le parent pauvre du cocktail, pays traditionnellement dévolu à la consommation du vin. C'est vrai que le cocktail n'avait pas forcément en France ses lettres de noblesse comme dans les pays anglo-saxons, à plus forte raison aux États-Unis. Et là, il y a du progrès, hein.
Et il y a une vraie démarche gastronomique dans l'offre et dans comment les gens s'accaparent cette offre également. C'est très intéressant.
Preuve de cet engouement, on constate qu'en France, de Paris à Saint-Guilhem-le-Désert, oui, c'est dans l'Hérault, hein, Dominique ?
Oui, oui.
Numéro du département ?
34, Charlie.
Bravo. On a tous été enspritzisés, vous voyez ce que je veux dire ? Le spritz. Alors c'est vrai que bon, on se dit même, ça y est, ça devient la standardisation du cocktail. Le spritz, cet alcool vénitien qui était encore inconnu en France il y a quelques années. Il y a eu comme une espèce de déferlement absolument incroyable depuis deux ou trois saisons. Marc Bonneton, vous êtes bartender à Lyon. Vous êtes aussi atteint du syndrome spritz ou pas? Vos clients vous le demandent?
Bien sûr, naturellement, ça fait partie des cocktails standard, star, un peu comme les mojitos.
Mais comment vous expliquez cet engouement soudain depuis quelques saisons?
Soudain ou pas si soudain, si on regarde un petit peu l'analyse de l'Aperol Spritz. Donc du coup, c'est le nouvel Americano du 21e siècle, oui. Donc qui est un peu moins amer, un peu plus sucré.
Sachant qu'au départ, l'Americano, donc il y a une affaire de bitter et de Campari. Hein.
Du vermouth rouge et du Campari et de l'eau gazeuse.
Ça, c'est l'Americano.
Voilà, classique.
Et le Spritz.
Et le Spritz, donc c'est de l'apérole, donc c'est un peu moins fort en alcool, c'est un peu moins amer.
Là, on parle d'un bitter italien industriel. Donc, hein.
Voilà, industriel et très très populaire en Italie, avec un petit peu d'eau gazeuse et surtout du Prosecco. Donc c'est du vin blanc effervescent italien et une petite tranche d'orange. Donc c'est très facile à boire, c'est très rafraîchissant, surtout en Italie ou en France en été quand il fait très chaud.
C'est vrai qu'on aime bien le spritz, faut l'avouer, on aime bien cette petite morsure amère de ce cocktail, c'est agréable. Si vous voyez,
c'est facile à boire, c'est pas trop amer non plus.
Oui, enfin pour la version apérole qui est effectivement un petit peu plus sucrée, même s'il y a un petit peu d'amertume, c'est ça ce qui donne d'ailleurs à ce cocktail vénitien cette fameuse couleur orangée. Si on le veut un petit peu plus amer, c'est Campari, hein, c'est ça.
C'est ça, clairement.
Un tiers de Campari, un tiers de Prosecco, un tiers d'eau gazeuse.
Oui, on peut faire un Campari spritz. Hein.
D'accord. Bah moi, je vais vous demander autre chose, Marc Bonneton, puisque je vous ai demandé un spritz, mais attention, un spritz 100% made in France. On veut pas d'Italie dans le verre. Uniquement de la France, mais on veut retrouver en même temps cette petite sensation amère. Alors, comment pourrait-on s'y prendre?
Hashtag do it the French way. Donc, Suze, donc, qui fait un grand retour en force.
Les oreilles de Dominique.
Agenciale.
J'adore. Non, je suis un fan absolu de l'amertume. Absolu. Je milite ardemment pour le retour de ces apéritifs-là.
Faire des branquins.
Absolument. Non, mais on parlait du spritz, on parlait de cette mise au goût du jour avec plus de sucre, etc. Mais n'insultons pas l'avenir. L'amertume va poser ses valises durablement sur les palais français.
Et c'est vrai que l'amertume, historiquement, c'est quand même un peu plus un goût italien. En France, on est plus penché sur l'acidité. Mais ouais, les Français reviennent à l'amertume.
On trouve que ça évolue et que maintenant, les gens qui veulent découvrir des choses nouvelles sont plutôt enclins à essayer de l'amertume.
Je comprends.
Et on avait plutôt tendance à penser que c'était pas très féminin, alors que ça l'est, vu que cette vague du spritz prouve que
les succès du spritz incroyable auprès d'Elvira Masson et de toutes les femmes de France. Absolument. Alors, ce spritz à la française, qu'est-ce que vous nous proposez? On a donc un premier indice, c'est de la Suze, apéritif très ancien s'il en est, hein.
Amer, avec des plantes, de la gentiane,
ouais.
Et très très prisé par nos grands-parents.
Alors là, vous prenez des verres à vin.
Des verres à vin, donc dans l'esprit du spritz, c'est un gros verre ballon.
D'accord.
Rempli que vous avez rempli de glaçons.
Bien rempli de glaçons. Alors ça, c'est un truc qu'il faut bien mettre dans les têtes, c'est que plus de glace ne veut pas dire moins d'alcool, et plus on met de glace, et généralement, moins le cocktail se dilue, et plus longtemps vous gardez un cocktail avec des saveurs organoleptiques très intéressantes.
Intéressant.
Voilà.
Donc 3-4 gros glaçons dans le verre.
Voilà.
Une dose,
donc 4 centilitres
de Suze. Ouh là là, cette
belle
couleur d'oreille.
Donc là, on est sur la Suze saveur d'autrefois.
D'accord.
Une recette légèrement différente, la Suze classique.
Ah, la belle couleur, déjà c'est joli. Ce jaune paille qui fait frétiller les yeux de Dominique Hutin.
Du sirop d'ananas.
Ah, du sirop d'ananas. C'est donc, ça. Une dose de suze, une dose de sirop d'ananas.
Un centilitre.
Un quart de la dose.
Un quart de la dose, d'accord.
Oui, il n'y en a pas autant. Il faut savoir qu'en fait,
Éric Fossard,
l'acide est en soi déjà très sucré. Hein.
D'accord.
Votre sirop d'ananas, vous l'avez fait vous-même?
C'est Éric qui l'a fait, oui.
Ah, oui, c'est moi qui
un sirop d'ananas
un peu
fait maison.
Une des grandes tendances du bartending, non, c'est de faire soi-même ses propres préparations.
Bon, à la maison, on ne peut pas en demander autant à nos auditeurs. Un bon sirop d'ananas, on essaie de le trouver.
Oui, ça se trouve. Hein,
éventuellement, on s'en passe.
Alors non,
d'accord.
Ok. Il faut savoir déjà, c'est quelque chose d'important dans une recette quand il y a un ingrédient, c'est la même chose qu'en cuisine. S'il est là, c'est pour une raison.
D'accord. Donc sirop d'ananas, on essaie d'en trouver de l'artisanal si possible. Là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Marc Bonneton?
Donc là, je rajoute le crémant, donc une méthode champenoise qui nous vient du Jura, donc un vin blanc effervescent. Qui va
avec une dominante de chardonnay pour éviter les savaniens trop marqués.
D'accord.
Oui, et là, c'est l'équivalent. Pas de sucre ajouté.
Et pas de sucre ajouté dans ce crément. Et ça, c'est l'équivalent effectivement français du Prosecco. On pourrait utiliser un champagne, on pourrait utiliser.
Si vos moyens vous le permettent, vous pouvez utiliser du champagne, bien sûr.
Mais après, un bon crément.
Un bon crément, vu que de toute façon, c'est un cocktail qui est déjà où on amène le sucre. C'est le champagne qui sera plus sec, il y a un petit peu moins d'intérêt.
Dominique Hutin, dégustation. Moi, je veux bien goûter aussi. Vous avez mis aussi un peu d'eau gazeuse comme dans le spritz ou pas?
Non, pas cette fois-ci, non. Pas dans cette recette-là.
Pas dans cette recette-là.
Ce qui est intéressant, c'est que l'idée de la suze transpire dès le premier contact. Au nez, on a cette proposition-là qui s'invite en premier.
Et franchement, c'est génial.
Je peux goûter?
Ah là, j'adore. Je me demande si je préfère pas ça au spritz d'ailleurs. Ouais, ça m'a l'air plus simple, plus naturel. Il n'y a pas ce colorant orange un peu bizarre.
Des huiles aromatiques de citron sur le dessus du verre amènent un peu plus de fraîcheur. Un petit côté citronné.
Alors attendez, là vous avez fait un geste qui est très étonnant. Des huiles aromatiques de citron sur le verre, comment vous vous y prenez?
Il a marabouté, il a caressé le verre avec un zeste.
Donc avec un couteau ou encore mieux avec un économe, on vient prélever une petite bande donc de l'écorce du citron jaune. On prend bien soin évidemment de bien le rincer pour enlever tout ce qui peut être néfaste et de ne pas mettre de blanc, ce qui amène de l'amertume.
L'albédo.
Voilà. Et donc derrière, on vient exprimer donc le zeste de citron jaune en le pinçant entre le pouce et l'index, à peu près 20 cm du verre, et surtout de manière assez horizontale, parce que si on se met juste au-dessus, on va faire tomber des particules qui sont plus lourdes et qui sont très amères. Donc en se mettant comme ça, on a vraiment un nuage olfactif, un parfum qui vient se déposer.
En pinçant l'écorce, on projette un petit nuage de...
Et on veut juste les huiles de parfum.
C'est Elvira, on peut plus. Sauf que Elvira,
il est prodigieux ce cocktail.
C'est génial. D'ailleurs, la bonne nouvelle pour nos auditeurs, pour tous ceux qui nous écoutent, même si vous êtes en voiture, vous n'avez pas de quoi noter évidemment. Eh bien, vous vous reportez sur le site internet de l'émission. Il y a toutes les recettes de nos amis Éric Fossard et Marc Bonneton, franceinter.fr. À la page, on va déguster. Elvira, j'ai une très mauvaise nouvelle. Oui. Il va falloir lâcher votre verre.
Ah non.
Non, vous le posez.
Je peux parler en tenant un verre à la main.
Vous le posez parce qu'il va falloir vous plonger dans vos fiches.
Sur France Inter, on va déguster.
Dans vos fiches, ou plutôt dans les journaux du monde entier, puisque vous nous avez mijoté, Elvira, une petite revue de presse, et vous avez même l'intention, vous cassez l'ambiance, de jouer les rabat-joie.
En effet, savez-vous quelle est, selon la presse, plus ou moins spécialisée d'ailleurs, la tendance lourde en matière de bartending ou mixologie en 2016?
Alors, une tendance lourde?
Je sais.
Non, Éric et Marc, vous n'avez pas le droit de répondre, c'est Dominique qui doit répondre, mais Dominique, c'est autre
lourde.
Chose. La tendance lourde en matière de mixologie, de bartending en 2016, c'est quoi? C'est
la
pas le retour de l'agence Yann.
C'est doubler les doses alors.
Bah non, c'est l'inverse. Il s'agit des cocktails sans alcool.
Ah oui, vous êtes très crédible. Ouais. Elle s'est sifflé le spritz à la française et elle nous parle de.
J'ai pas forcément dit que j'adhérais à mes propos.
Par parenthèse, Elvira, pardonnez-moi. Marc Bonneton, il a un nom, il a un petit surnom, un petit nom, ce spritz à la française?
Le suspritz.
Le suspritz. Très bien. Suspritz.
Ça ne va pas perdre le consommateur avec des noms trop compliqués.
Vous avez raison.
Une demi-virgule, ce serait vraiment. Très malhonnête de réduire la suze à l'expression amère. Vous avez une profondeur de goût avec des notes terreuses qui rappellent le côté racinaire. C'est fantastique.
Merci de le rappeler.
Il y a même un côté un petit peu sureau. Oui,
avec la oui, on voit bien, ouais. Alors, reparlons du cocktail sans alcool.
Au mois de janvier dernier, sur le site Ataboula, on nous rappelait qu'au bar du restaurant Hexagone à Paris, le restaurant de Mathieu Pacot,
et oui,
avenue Kléber, dans le 16e, son chef barman Thomas Girard avait conçu une carte qui proposait autant de cocktails sans alcool que de cocktails avec spiritueux. Mmh. Pour des raisons assez évidentes, avenue Kléber, 16e arrondissement, clientèle aussi de repas d'affaires qui auront plus d'appétit pour un cocktail...
Et de chihuahua aussi.
Et de chihuahua également, mais ça c'est moins à l'heure du déjeuner, peut-être moins en semaine. Une clientèle qui effectivement peut être à l'affût de ce qu'on appelle un mocktail.
Un mocktail, de quoi s'agit-il? Mocktail, en voilà, c'est un mot valise?
Un mot valise, exactement, c'est la contraction toute british du mot mock, soit imitation, et cocktail. Et un article du 18 juillet, donc tout récemment, desinrock.fr enfonce le clou. Longtemps perçu comme des solutions faute de mieux.
Ou des remèdes pour les alcooliques.
Voilà, c'est ça. Ou pour les femmes enceintes.
Oui, c'est ça. Voilà.
Les cocktails sans alcool reprennent du galon grâce à une nouvelle génération de bartenders passionnés. Leur défi, à ces bartenders, transformer cette boisson de substitution en un must drink. Mais le mocktail, c'est pas du tout une tendance récente. Peut-être que le mot est assez récent, mais la tendance n'est pas née de la dernière pluie. Ses origines remonteraient à l'époque de la prohibition aux États-Unis, quand les Américains cherchaient des substituts aux consommations alcoolisées.
Oui.
Dans un livre qui date de 1920, What to Drink, Bertha Stockbride invitait ses hôtes à préparer des boissons à base de vinaigre, d'épices, de sirop, entre autres ingrédients.
D'accord.
Vous vous souvenez de Karina Soto qu'on avait reçue
ici?
Eh oui,
Marie-Céleste.
Oui, Marie-Céleste, Candelaria, Glace, une des stars de la scène cocktail à Paris. Elle se disait d'ailleurs dans le même article des Un Rock qu'elle était assez attristée, voire choquée, de voir un client commander un soda ou une boisson gazeuse un peu par dépit et par défaut à côté de quelqu'un qui sirotait un cocktail élaboré, faute de pouvoir proposer une offre de cocktail sans alcool de qualité. Et dans ce même article, on vous cite, Eric.
Ah.
Et on vous cite, vous souvenant à ce propos d'un tweet d'un athlète qui se réjouissait en buvant son mocktail de pouvoir enfin partager une soirée entre amis sans être exclu.
En fait, il y a vraiment un changement et il se fait dans les mentalités, mais surtout dans les mentalités des établissements et des barman. On a souvent recalé les cocktails sans alcool à la fin de la liste des cocktails, en tout petit, genre... Pour ceux qui ont des problèmes, c'est ici.
Et même si on n'est plus exclu, c'est qu'on est quand même celui qui ramène les autres en voiture après.
Évidemment, ouais, il est super important.
Voilà, on est le capitaine de soirée.
Celui-là. Et oui, et en fait, lorsqu'on met en avant cette offre, et que l'expérience gustative est vraiment là, bah il y a un engouement et il y a des gens qui, par exemple, pendant la Paris Cocktail Week, nous disaient que quand ils font deux ou trois établissements dans la soirée, parce qu'ils veulent découvrir, et bah ils vont ponctuer un cocktail avec alcool et un cocktail sans alcool.
C'est ça, pour pondérer un peu leur consommation quand même.
Tout à fait.
Mais ce n'est peut-être pas la peine de se donner tout ce mal, alors Elvira ?
Non, parce qu'on vient d'apprendre en effet sur le site spécialisé Cocktail Mag. Il existe désormais une liqueur garantie sans effet gueule de bois.
Ouf, attention.
La question. Le hic de cette info, c'est que cette nouvelle invention vient tout droit de Corée du Nord.
Vous avez décidé voilà. De mettre l'ambiance aujourd'hui hein, avec votre revue de presse.
Et c'est dans les hebdomadaires de Pyongyang Times.
Non, mais c'est une blague, vous blaguez là.
Je lis le coréen dans le texte. Du Pyongyang Times et du NK News que l'on apprend que le régime nord-coréen dit avoir inventé une liqueur qui ne cause pas de maux de tête ou autres méfaits. Le secret de cette liqueur, baptisée Koryo, résiderait dans le fait qu'elle est fabriquée à base de Kaesong Koryo, un ginseng de Corée âgé de 6 ans, qui a des propriétés médicinales, mais aussi, semble-t-il, dans le remplacement du sucre par du gluten de riz. Pour mémoire, je vous rappelle que la Corée du Nord disait déjà en 2015 avoir inventé un médicament à base de ce même ginseng qui était supposé guérir du virus du sida et du virus Ebola.
Donc, prenons ces informations
avec les pincettes requises.
Marc Bonneton, qu'est-ce que vous pensez de... Vous utilisez le ginseng ou pas dans vos cocktails?
Non, pas du tout. Je suis pas trop sous influence asiatique.
Oui.
Mais non, je n'utilise pas de ginseng.
Est-ce que vous êtes sous influence? Qu'est-ce que vous pourriez nous préparer là, par exemple?
Pour être sous influence germanique, en vous préparant un gin basil smash, donc qui se compose de basilic, de jus de citron jaune, de sucre et évidemment de gin.
Très bien, allons-y.
On fait ça.
C'est vraiment un cocktail qui connaît une vraie success story. Hein.
C'est ça, c'est vraiment qui est considéré comme un néo-classique. Pour deux cocktails, je vais mettre... bien une dizaine de feuilles.
Donc là, vous avez dégainé votre shaker. Dizaine de feuilles de basilic bien frais, bien vertes.
Ensuite, du citron jaune qui va être squeezé.
Alors, du citron jaune pressé avec un presse-agrumes.
Ça, manuel.
Et là, vous en mettez quand même un gros trait.
C'est carrément un demi-citron par cocktail.
Un demi-citron par cocktail, waouh.
Qui correspond à peu près à 2 centilitres.
D'accord. Magnifique.
Donc là, vous voyez encore les huiles...
C'est important, hein. Les huiles essentielles qui partent avec le jus et qui vont...
C'est le parfum, on travaille le cocktail, c'est énormément d'arômes, c'est vraiment le parfum. Quoi.
Du gin, dont Dominique Hutin va nous parler dans un instant.
Donc, 4 centilitres.
Toutes les proportions sont à retrouver évidemment sur notre site internet.
2 kilos de sucre pour 1 litre d'eau.
Du sucre blanc ?
Voilà, du sucre blanc, oui. Cristal, classique.
D'accord. Et donc vous faites un sirop comme ça à la maison, c'est pas très compliqué ?
Non.
Pour les gens chez eux, c'est simple.
Oui.
À part égale, il suffit de mélanger, ça va se dissoudre très rapidement, il n'y a même pas besoin de chauffer.
Ouh là là, quelle dextérité ! Ah oui, on sent qu'il a le geste. Hein. Alors là, ça part pas dans tous les sens. Et il a aussi les muscles, me précise Michel Billou, notre réalisatrice en admiration devant Marc Bonneton. Vous goûtez là ? Il faut toujours goûter son cocktail, c'est comme en cuisine ?
Toujours, bien sûr.
D'accord.
Comme dit Paul Bocuse, si tous les cuisiniers goûtaient leur plat, il y aurait moins de mauvais plats.
C'est vrai, il
donc
a raison.
Ça vaut de même pour les cocktails.
Et là, vous utilisez une petite passoire ?
On a une double passoire, donc une première passoire qui retient les glaçons à l'intérieur du cocktail. Et ensuite, une passoire à thé qui nous permet de filtrer, comme vous pouvez le voir, les petits morceaux de basilic qu'on ne veut pas qui baignent dans le cocktail.
Alors, ce qui est absolument superbe, c'est que là, l'élixir que vous versez dans des petits verres, des verres qu'on qualifie, il faut utiliser quel verre ? Ce sont des verres.
Des verres rock, des verres à whisky.
Des verres à whisky. Là, vous y avez mis des glaçons et vous avez versé cet élixir qui a des reflets vert pâle absolument superbes.
Un peu la synthèse des ingrédients. Vous avez c'est un jaune vert, le jaune citron, le vert du basilic.
On retrouve l'esprit du basilic. Là, pareil, vous faites le même geste avec une écorce de citron, petit nuage d'huile essentielle au bord du verre. Pour la décoration, une feuille de basilic
qui va faire la
bien fraîche.
C'est ça. Et puis surtout, quand vous approchez votre bouche et votre nez de votre verre, vous êtes encore plus au contact de la feuille de basilic fraîche.
On va faire goûter ce cocktail à notre expert gin. Et ça, vous nous rappelez le nom de ce cocktail qui visiblement est très en vogue en France et partout dans le monde.
Le gin basil smash.
Le gin basil smash qui nous vient d'Allemagne, Hambourg.
C'est ça, Hambourg, le Lyon.
Alors Dominique.
Alors c'est un peu l'antithèse de ce qu'on a goûté à base de Suze tout à l'heure, qui était très terrien, qui était vraiment beaucoup de profondeur. Là, au contraire, c'est aérien. On navigue à plusieurs mètres d'altitude, très léger,
vous
très fluide.
Un verre, Dominique.
Qui s'évanouit gentiment en bouche, avec la fraîcheur comme argument numéro un. Et le basilic, tac, qui à la fin vient poser une petite virgule qui vient complexifier un peu l'ensemble, plutôt que de rester juste sur une proposition acide.
C'est une bonne mise en jambe, Dominique, pour une chronique sur le gin, non ? Vous en pensez quoi ?
C'est un bel enchaînement.
Oh là là, mais je rêve. Djoubaka, il fait des efforts pour nous trouver des petites pépites tropicales, ambiance tiki. Et là, on est avec la gym tonique.
Ouais, mais je parie que vous regrettez d'avoir mis votre Justocor sur le bon coin.
Non. Pourquoi cette musique, Dominique ?
Je ne sais pas. Véronique et Davina, ambassadrices de la bonne humeur, du bon goût. Mais surtout, elles ont tellement causé d'effets de dégâts durables sur nos oreilles qu'il m'a semblé qu'on pouvait solder cet héritage de gym tonic et donc de son pendant liquide, le gin tonic.
Oh là là là.
Eh oui, évidemment.
Ah, d'accord.
Évidemment. Vous connaissez tous ça. Le gin tonic de bas étage, qui est articulé souvent autour d'un gin aux origines un peu troubles et puis d'un tonic sans origine, avec pour résultat 1 plus 1 égale 0. Donc, rien du tout. Pourquoi solder aujourd'hui spécialement le fait qu'on se débarrasse, on peut le dire comme ça, ce sous-produit de boîte de nuit ?
Oui.
Simplement parce que le gin, le vrai, est de retour. C'est une véritable lame de fond. Elle est portée par des gins de autres expressions. Pardon, c'est le cocktail de tout à l'heure.
Vous avez une feuille de basilic coincée dans le gosier, en fait.
On a une chance, heureusement, en France, c'est d'avoir une Française. Monsieur, madame, une Française reconnue experte mondiale en termes de spiritueux, elle s'appelle Martine Noué.
Vous connaissez Eric,
oui,
et Marc
connais.
Évidemment, voilà. Et je l'ai interrogée lors de son passage en France. Je dis ça parce qu'elle habite en Écosse, sur une île au plus près des distilleries. Et il semblerait que cette amoureuse transie du whisky ait été gagnée par la folie du gin.
Chez moi, sur l'île d'Aïla, qui est l'île au whisky où j'habite, on a une distillerie qui s'appelle Brooklady, qui produit un excellent whisky, mais qui aussi, depuis, je pense, 5 ou 6 ans, a lancé un gin, qu'ils appellent le botaniste. Parce que, effectivement, c'est un botaniste qui est chargé de recueillir des éléments de la nature d'Aïla. Donc, il y a des pousses de bruyère, il y a des plantes comme de la camomille. Il connaît vraiment toutes les plantes de la région et il les ramasse, on les fait sécher. Et puis, il y a les fameux botanicals de base, donc le genièvre, la coriandre, parfois du pamplemousse ou des écorces d'orange. Alors, le gin and tonic avec des glaçons, avec un petit quartier de citron vert. Moi, je suis plus citron vert que citron jaune, mais bon, chacun son goût. Et ça, c'est vraiment la boisson des copains, on se relaxe sur la terrasse. Et puis il y a le gin, mon gin du soir, avec un petit peu de nostalgie. Quand j'ai envie d'écouter du blues ou du jazz, j'aime bien le martini gin. Martini blanc, gin, dans le fameux verre à martini, la coupe. Là. Et puis, il ne faut pas oublier l'olive, hein, ça c'est important, l'olive verte. Il faut que ce soit verte, il faut qu'elle soit noire. Bien frais, frappé. et avec un bon disque, une bonne musique.
And cocktails for two.
Moi, c'est aussi un de mes plaisirs, de gin. Et j'ai appris, depuis que j'habite en Grande-Bretagne, à apprécier le gin. C'était pas du tout dans ma culture. Hein. Je suis plutôt une culture de... Ben, en tant que Normande, Calvados, bien évidemment, Cognac, Armagnac, Eau-de-Vie Brune, etc. Et puis, j'ai découvert le gin. Parce que c'est une boisson d'été, peut-être plus. C'est une boisson de relaxation.
Se relaxer au gin avec Martine Nouette, c'est un scoop international. Martine Nouette n'est pas spécialiste que de whisky.
Non, elle habite à côté de cette distillerie assez fameuse qui produit aux botanistes, à 8 km simplement. Donc évidemment, ça a ouvert un certain nombre de fenêtres dans son univers sensible. Alors, on l'a compris, c'est un voyage auquel nous convie le gin. C'est un voyage vraiment avec des accents scottish très forts, parce que 70% des gins qui sont consommés en Angleterre viennent d'Écosse. Reste que cet amour du gin... Bien sûr, il a reconquis l'Angleterre, mais il a aussi accosté en France parce qu'on a une drôle d'ambassade en plein cœur de Paris qui s'appelle la Distillerie de Paris.
Ah bah oui, Elvira, ça vous dit quelque chose.
Nicolas Jules, exactement. Et il s'est intéressé à la question du gin. Je le cite, « Le travail se rapproche de celui des parfumeurs historiques. Il suffit de composer une forme esthétique autour de la baie de Genièvre, puis de trouver les ingrédients et la technique pour la mettre en œuvre. Un gin, c'est une réalisation, une proposition esthétique. »
Carrément.
Donc, pour prolonger ce geste, je vous propose leur production, une réflexion autour de la quinine, ça s'appelle tonique. Alors, on a utilisé l'écorce de la quinine. À l'origine, c'était pour contrer les effets de la malaria. Voilà. Et là, ce qui l'a intéressé, c'est de travailler autour de tout ça pour conserver la petite pulsion amère, mais évacuer les mauvaises amères. Donc, il intègre en cours de distillation la quinine. Ça s'appelle donc tonique.
Voilà, c'est
incroyable, la distillerie
ça.
De Paris. Je vous laisse goûter.
Signé Nicolas Jules, Marc Bonneton, un avis.
Très, très floral, c'est très frais au nez.
Vous aimez ? Vous connaissiez ce gin signé Nicolas Jules, le premier gin distillé à Paris intramuros ?
Je connaissais la marque, la distillerie, le personnage, mais je n'avais pas goûté ce gin-là en particulier.
Waouh !
Alors, selon la version, vous avez plusieurs gins chez eux, entre 45 et 49 euros les 50 centilitres, c'est un travail d'orfèvre. De toute façon, on
et
sait que dans le gin, ce qui compte, ce n'est pas le prix, mais c'est la taille.
Oh, bravo. Oh là 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 là, il est en forme Dominique Hutin. Bah, merci beaucoup Dominique. Allez, on finit en beauté avec une dernière petite recette en une poignée de secondes. On va confier la mission à Éric Fossard.
Alors oui, en fait, on réfléchissait, on essayait de vous proposer des recettes qui sont faciles à boire et surtout à faire pour l'été.
Car on ne voyage pas effectivement en vacances avec ses centrifugeuses, avec tout son matériel.
Même avec
son shaker. D'accord.
En fait, cette recette, elle est extrêmement simple. Ça met sur un piédestal une catégorie de spiritueux qui est plutôt à la mode dans les bars à cocktails, c'est la tequila.
La tequila. Définition de la tequila.
Tequila, c'est un spiritueux à base d'agave.
Oui.
Ce cocktail, c'est avec un sucre en fait qui est fait avec cette matière première. Ça s'appelle le sirop d'agave.
D'accord. Vous allez donc coupler une bonne tequila, on a compris que c'était cet alcool d'agave, alcool distillé d'agave, avec le sucre d'agave, qui est effectivement de plus en plus en vogue, notamment dans les magasins bio, qu'on trouve très facilement, y compris dans les rayons diététiques des supermarchés.
Maintenant, on en trouve tout le temps, c'est vraiment simple à trouver. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est juste, on n'est même pas obligé de le shaker au final.
Oui.
On peut le faire dans un pichet en grande quantité, on met beaucoup de glace, on laisse diluer un peu pour donner la dilution qu'on aurait dû faire si on l'avait fait au shaker.
D'accord.
Mais à consommer comme ça, frais, sur glace, c'est super bon.
On est dans l'esprit d'une margarita.
Alors, on est exactement dans l'esprit d'une margarita. On va utiliser du jus citron vert à part égale de ce sirop d'agave qui va être coupé avec de l'eau, parce que sinon, c'est trop sucré.
D'accord.
À part égale, jus de citron vert fraîchement pressé, sirop d'agave coupé à l'eau et deux parts de tequila 100% agave.
Tout bête en plus.
Mais c'est, voilà, c'est la margarita. Et ça marche, c'est efficace ou pas? On veut savoir ça tout de suite. Il est en train de nous le préparer.
Vous allez voir que c'est très efficace.
Une dose de tequila.
C'est jus de citron.
C'est trois mouvements, effectivement.
Et comme tous les cocktails ont une histoire, c'est donc une variante de la margarita classique avec un bord givré au sel. Là, donc, c'est une famille mexicaine qui s'est installée donc à San Francisco, qui a un restaurant, le Tomise, et donc qui a fait leur propre signature margarita. Et un peu plus adapté au palais américain, un peu plus sucré, un peu moins salé.
Oui.
Et donc servi sur glaçon, on the rocks, dans un verre rock, justement.
Et voilà. Il s'agit là, effectivement, donc de la Tommy's Margarita, qui, là encore, est devenue un succès mondial.
Exactement. De par sa facilité d'exécution et son goût qui plaît à tout le monde, quoi.
Donc. Je sens que ça va Tommy's Margarita dans les familles françaises. Allons-y. Oh là là, effectivement, c'est fait. Franchement, alors là, top chrono en 15 secondes et c'est Elvira, le cobaye. Qui va goûter. Tommy's Margarita, qu'est-ce que vous en pensez? Tequila, citron vert, sirop d'agave.
Tout ce qu'on attend d'une margarita, frais, du caractère, un twist, du peps, facile à boire, facile à préparer, long en bouche. Piscine.
Et la recette, top, comme toutes les recettes de nos cocktails, sont évidemment à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Merci beaucoup, chers invités, pour votre talent, pour votre énergie, pour avoir apporté tous vos ingrédients et vos instruments. Eric Fossard, liquideliquide.com pour tout savoir sur votre actualité. Paris Cocktail Week, Summer Cocktail Week, c'est bien comme ça de faire monter la sauce en termes de cocktails. Marc Bonneton, vous nous rappelez vos deux adresses à Lyon.
L'Antiquaire et le Redwood.
Allez, pour déguster d'exceptionnels cocktails de qualité. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission. Et On va déguster poursuit son tour du monde samedi prochain à 11h avec notre dernière escale, Cap, sur l'extrême sud de l'Italie, pour découvrir le terroir et les recettes calabraises. À samedi prochain, si vous avez encore faim.